Il est 2h du matin à Beyrouth, 19h à Washington. Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris où il est 1h. L'actualité du monde en 10 minutes sur la radio du monde. C'est avec vous, Mathis Slimano. Bonsoir, Mathis.
Bonsoir, Zéphirin. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, le Liban, pilonné par l'aviation israélienne. De nouvelles frappes ont visé la capitale Beyrouth dans la soirée, visant des dépôts d'armes du Hezbollah, selon Israël. Plus tôt, c'est le quartier général du mouvement chiite qui a été visé dans la banlieue sud. Avec ce bilan provisoire, 6 morts et 91 blessés. Rencontre à New York, ce vendredi, entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, l'ex-président et candidat a affirmé qu'il pouvait régler la guerre entre la Russie et l'Ukraine. À la une également, la fermeture ce vendredi de l'ambassade d'Afghanistan à Londres. Et puis on restera en Angleterre avec cette condamnation contre les deux militantes écologistes qui avaient aspergé un tableau de Van Gogh avec de la soupe. Bienvenue. Pas de répit dans les raids israéliens au Liban. De nouveaux bombardements sont en cours dans la banlieue sud de Beyrouth. Information donnée par l'armée israélienne vers 22h temps universel qui a annoncé viser des dépôts d'armes du Hezbollah. Des armes cachées, selon les dires de l'armée, sous des immeubles de la capitale libanaise. L'aviation israélienne qui survole et surveille l'aéroport de Beyrouth afin d'empêcher toute nouvelle livraison de matériel militaire. Plus tôt dans la soirée, d'autres frappes ont soufflé une partie de la banlieue sud, fief du Hezbollah. Son chef, Hassan Nasrallah, était visé. Il est sain et sauf, a communiqué la milice chiite. De son côté, le ministère de la Santé du Liban fait état de 6 morts et 91 blessés. Bilan provisoire. Juste avant ces bombardements, à la tribune des Nations Unies, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'était engagé à continuer à frapper le mouvement pro-iranien. Entre crainte d'un embrasement et condamnation, Anastasia Becchio, les réactions internationales se multiplie.
Israël et le Hezbollah libanais doivent cesser de tirer, c'est le secrétaire d'État américain qui lance cet appel. Anthony Blinken estime qu'il reste encore une chance de résoudre les choses par la voie de la diplomatie. Une guerre totale devrait être évitée au Liban, affirme pour sa part le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin. Les États-Unis, proches alliés d'Israël, disent n'avoir pas été informés à l'avance de ces frappes massives sur Beyrouth. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'alarme. L'onde de choc provoquée par la guerre à Gaza menace désormais de pousser tout le Proche-Orient dans l'abîme. Le Proche-Orient au bord d'une guerre totale met en garde le chef de la diplomatie russe qui réclame un cessez-le-feu. Nous condamnons fermement les actions de la partie israélienne qui viole de manière flagrante la souveraineté de notre pays ami le Liban, affirme Sergueï Lavrov, cité par l'agence TASS. Son homologue jordanien déclare que le chef du gouvernement israélien doit être arrêté parce qu'il conduit, selon lui, la région à une véritable guerre. Enfin, le président iranien Massoud Pezeshkian dénonce un crime de guerre flagrant et un terrorisme d'État de la part d'Israël.
L'Iran, premier soutien du Hezbollah, qui, à l'instant, dénonce les menaces scandaleuses de Benjamin Netanyahou. « Il n'y a aucun endroit en Iran que Israël ne peut atteindre », avait déclaré le Premier ministre à l'ONU. Plus tôt dans la soirée, l'Iran a également accusé les États-Unis de complicité dans les crimes israéliens au Liban et à Gaza, référence à l'armement fourni par Washington à l'État hébreu. Les États-Unis avec la suite de la tournée américaine de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien était à New York ce vendredi, à la Trump Tower précisément, pour y rencontrer son résident, l'ancien président et candidat républicain à la prochaine présidentielle, Donald Trump. RFI Washington, Guillaume Nodin.
Moins de 24 heures, c'est le laps de temps entre le rendez-vous de Volodymyr Zelensky avec la candidate démocrate Kamala Harris et ses retrouvailles avec Donald Trump 5 ans après leur dernière rencontre. Une sorte de grand écart entre un soutien quasiment inconditionnel dans la guerre face à la Russie et un échange avec un partenaire beaucoup plus critique, mais Volodymyr Zelensky ne peut pas vraiment faire autrement.
Nous comprenons que jusqu'en novembre, nous ne pourrons pas arrêter Poutine. Nous devons le faire, nous essaierons sur le champ de bataille avec nos soldats héroïques. Mais nous comprenons qu'après novembre, il faudra prendre des décisions. Et nous espérons que les États-Unis seront très forts et nous comptons sur eux. C'est pourquoi j'ai décidé de rencontrer les deux candidats.
Malgré ses reproches récurrents au président ukrainien, Donald Trump semble apprécier ce moment et réitère ses promesses.
Nous avons une très bonne relation. J'ai aussi une très bonne relation avec le président Poutine et je pense que chacun joue un rôle dans cette situation. Si nous gagnons l'élection, je pense que bien avant le 20 janvier, avant que je sois officiellement président, nous pouvons trouver quelque chose qui soit bon pour les deux parties.
Pour l'instant, les positions russes et ukrainiennes sont si radicalement opposées que la guerre dure depuis près de 3 ans. Guillaume Dodin, Washington, RFI.
On reste aux États-Unis où l'ouragan Helene poursuit sa course meurtrière. Des vents à plus de 220 km/h provoquant d'importantes inondations. Au moins 33 morts, des millions d'Américains encore privés d'électricité, c'est le bilan provisoire. Les États les plus touchés sont la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, la Floride et la Géorgie. Géorgie et sa mégalopole Atlanta où l'on craint de graves inondations à venir. RFI, il est minuit 5 à Londres, où le drapeau flotte toujours, mais plus personne ne répond. L'ambassade d'Afghanistan à Londres est fermée depuis ce vendredi matin, officiellement parce que le Royaume-Uni ne reconnaît pas le régime taliban qui a pris le pouvoir à Kaboul en 2021. Depuis deux ans, pourtant, les anciens fonctionnaires afghans affiliés au président déchu Ashraf Ghani continuent de gérer les affaires courantes dans une douzaine d'ambassades, dont celle de Londres, tout en refusant de prêter allégeance aux talibans. La communauté afghane au Royaume-Uni compte environ 86 000 personnes. Mohamed n'a pas voulu donner son nom par mesure de sécurité. Il est membre de Paywand, l'une des principales associations qui viennent en aide aux Afghans en Angleterre.
La plupart des Afghans qui vivent au Royaume-Uni sont des réfugiés. Ils ont besoin de documents émis par l'ambassade pour renouveler leur passeport et pour les procédures d'immigration au Royaume-Uni. Il faut des actes de naissance, de mariage, des extraits de casiers judiciaires. Maintenant, on n'a plus d'entité légale en Angleterre à qui s'adresser, alors que depuis deux ans, l'ambassade travaille sans avoir de relations officielles avec les talibans. Alors, qu'est-ce qui a changé? Je crains qu'il y ait eu un accord avec certains pays occidentaux, pas seulement le Royaume-Uni, mais aussi l'Allemagne et les pays nordiques. Il y a eu des rumeurs comme quoi les talibans auraient accepté de rapatrier les demandeurs d'asile afghans déboutés qui doivent être déportés, mais en échange, ils veulent le contrôle des ambassades. Cette fermeture de Londres, c'est un espèce de feu vert. Avec le temps, ils finiront par accepter que les talibans gèrent ces ambassades. Implicitement, ils légitiment le régime.
Propos recueillis par Carlotta Morteo. L'actualité au Royaume-Uni, c'est également cette condamnation des peines de prison prononcées à l'encontre de deux militantes du groupe Just Stop Oil, collectif écologiste. Souvenez-vous, elles avaient jeté de la soupe sur le chef-d'œuvre de Van Gogh, Les Tournesols. Le célèbre tableau n'a pas été endommagé car protégé par une vitre. Seul le cadre avait subi des dommages mineurs. Mais le juge londonien a voulu faire de ce procès un exemple. Stéphanie Schuller.
Vous n'aviez tout simplement pas le droit de faire ce que vous avez fait au tournesol. Et votre arrogance à prétendre le contraire mérite la condamnation la plus ferme, a déclaré le juge londonien avant de condamner Phoebe Plummer et Anna Holland à respectivement 2 ans et 20 mois de prison ferme. Les deux jeunes femmes avaient fait valoir leur droit à la désobéissance civique et pacifique, garantie par le droit international, pour exiger la sortie des combustibles fossiles d'ici 2030. Mais au Royaume-Uni, de nouvelles lois régressives ont été adoptées. Fiona, membre du groupe Just Stop Oil.
Les lois sur le droit de manifester ont été influencées par ExxonMobil, l'une des plus puissantes et riches compagnies de combustibles fossiles au monde. L'entreprise a donné de l'argent à un think tank de droite et l'ex-premier ministre Rishi Sunak a reconnu qu'ExxonMobil avait aidé à rédiger les lois anti-manifestation qui permettent aux juges de réduire les gens au silence. C'est effrayant que ceci soit la réponse du gouvernement aux jeunes qui tentent de se protéger.
Michel Forst, rapporteur spécial de l'ONU, dénonce régulièrement la répression des défenseurs du climat en Grande-Bretagne. Peu après le jugement, les tournesols de Van Gogh ont de nouveau été pris pour cible par des militants de Just Stop Oil, dont 25 membres sont désormais derrière les barreaux.
Stéphanie Schuller. Et puis un mot de Ligue 1, maintenant c'est du foot. Le match de la soirée, c'était le Paris Saint-Germain qui recevait le Stade Rennais. Sans sourciller, les Parisiens se sont imposés 3-1, notamment grâce à un doublé de Bradley Barcola qui devient le meilleur buteur de Ligue 1. Plus tôt dans la soirée, Brest s'était incliné à Auxerre sur le score de 3-0. Deuxième victoire dans la compétition pour les Auxerrois qui leur permet de s'éloigner du bas du classement. Et puis elle était une légende du théâtre et du cinéma. L'actrice britannique Maggie Smith, elle s'est éteinte à l'âge de 89 ans, ont annoncé ses deux fils. Sa carrière débutée dans les années 60 est marquée par l'éclectisme de ses rôles, de Sister Act à Harry Potter, en passant par Chambre avec vue. RFI, presque 1h10 ici à Paris, 23h10 en temps universel. Tout de suite, c'est pas du vent.